croisement, a-t-on dit, entre les peurs de l'Amérique profonde, la sous-culture de la télévision et l'obsession de la célébrité. Donald Trump, 45e président élu des États-Unis. Donald Trump, donc, n'en finit pas de déchaîner les passions. Depuis sa victoire, même si le mouvement a un peu perdu de son intensité, de Los Angeles à Portland, en passant par New York, les rassemblements anti-Trump restent quotidiens. Il faut dire que le milliardaire n'a pas ménagé ses efforts dans le registre de la provocation. Mais est-il pour autant le monstre qu'on a si souvent décrit? Notre invité du jour est loin d'en être persuadé, on va le voir. Le plaisir de recevoir ce matin en direct de notre studio de Zurich un ancien diplomate suisse qui a très fréquemment séjourné aux États-Unis, Thomas Boehrer, c'est vous, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être notre invité jusqu'à 8 heures. Vous avez dirigé au milieu des années 90 la fameuse Task Force sur les fonds en déshérence, d'où vous avez beaucoup traité avec les États-Unis. Vous fûtes aussi, à la fin des années 90, notre ambassadeur en Allemagne. Vous œuvrez aujourd'hui comme consultant, comme conseiller stratégique, notamment pour des entreprises actives aux États-Unis. Alors on l'a dit et souvent répété, le candidat républicain Trump a su peut-être mieux que quiconque interpréter ce qu'on pourrait appeler la rébellion de base, catalyser ou synthétiser cette forme de rébellion en jouant largement de la provocation. Après tout, c'était aussi un homme de télévision. Pour vous, on s'en fait assez clairement, Thomas Boehrer, une fausse image, on le caricature, Donald Trump?
Non, naturellement, il a quand il a fait la campagne, il a exagéré dans beaucoup de directions, mais vous voyez, durant leur campagne d'élection, beaucoup de politiciens font des promesses qu'ils ne peuvent pas ou ne tiendront pas. Trump n'est pas différent à ce sens. Le fait le plus marquant de cette élection était le mépris des électeurs envers les deux candidats. En fin de compte, les électeurs, dont beaucoup étaient désillusionnés, ont préféré un mal inconnu, mais qui promettait du changement, à un mal connu. Ça, c'était un peu la raison pour laquelle Trump, avec ses, malgré ses, beaucoup des fautes qu'il a commis, il est élu à la fin.
Oui, c'est ça. C'est qu'on a deux mots, choisissons le moindre. On connaît l'adage, au fond. Mais il y a quand même des gens, et on les entendait dans quelques reportages réalisés sur place aux États-Unis cette semaine, notamment tout à l'heure dans l'Ohio, des gens qui y croient à ce discours « Make America Great Again », qui ne croient pas à ce taux de chômage artificiel 5%, certains disent « c'est pas vrai, c'est beaucoup plus haut ». Donc il y a quand même des gens qui ont cru en la politique de M. Trump. Comment comprendre ça?
Vous voyez, les États-Unis sont un pays vraiment aussi économiquement partagé. Il a l'Ouest et l'Est, et peut-être un peu de Sud, qui va extrêmement bien, New York, Los Angeles, la Floride, mais les overfly country, comme on le dit, les États quand ce mot vole là-dessus, ils vont extrêmement mauvais. Là, les gens, depuis 20 ans, 25 ans, ils n'ont pas eu un profit économique de toute la situation, et alors il lut dans les journaux comme les milliardaires des autres, la Chine, comme le monde en général va beaucoup mieux, mais eux, ils se perçus comme perdants. Et là, Trump, comme j'ai dit, a quand même fait des promesses, et peut-être on pourrait discuter comment il peut réaliser les promesses pour développer l'économie des États-Unis aussi pour ses voteurs.
Vous pensez qu'il peut y arriver? Parce qu'on dit souvent, autre adage, que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Vous pensez vraiment qu'il a les moyens de combler ce gouffre que vous nous dites entre les États qui vont bien et ces overflight countries? Ce gouffre, en gros, entre la côte Est et la côte Ouest et le reste du pays. Est-ce que M. Trump a vraiment les moyens de mener une politique qui peut combler ce gouffre?
Oui, je suis optimiste. Il veut investir environ 500 milliards de dollars dans l'infrastructure du pays.
Il veut baisser les impôts aussi. Donc, où va-t-il trouver cet argent-là?
Ça, c'est toujours le dilemme. Mais l'infrastructure des États-Unis est dans certaines régions comme pays du tiers-monde. Et ce projet créerait des places de travail pour beaucoup de travailleurs américains. Aussi ceux peu qualifiés. Et ce projet va stimuler l'économie, surtout dans les régions centrales du pays. Alors, pour, à mon avis, la modernisation de l'infrastructure américaine est essentielle et des entreprises avec des produits à haute valeur ajoutée auront beaucoup d'opportunités. D'ailleurs aussi des entreprises suisses. Et naturellement, vous avez raison. Là, il va créer un déficit énorme et je crois qu'il va dans 4 ans dire bah, maintenant vous devez m'élure parce que je dois maintenant encore résoudre le problème de la dette, renégocier la dette. Mais je crois comme dans un premier plan, il aurait de succès s'il est vraiment prêt et si le Congrès, naturellement, approuve cette politique.
Donc vous êtes optimiste, Thomas Breuer, sur la politique qu'il peut mener pour réduire les inégalités, au fond, réduire ce gouffre. Comment comprendre dans ce pays, l'Amérique, qui est un pays quand même assez fair-play, y compris M. Trump quand il a rencontré M. Obama, et M. Obama quand il a rencontré M. Trump, tout ça s'est apaisé, c'est quand même un pays fair-play, pourtant des manifestations continuent, des manifestations anti-Trump continuent de se tenir chaque jour. On a vu la Californie par exemple, qui menace de se séparer des États-Unis, de faire sécession, d'organiser un référendum sur son indépendance. Comment comprendre ça? Est-ce que ce sont des menaces qu'il faut prendre au sérieux?
Non, je ne crois pas qu'il faut prendre ça au sérieux, mais la déception est énorme dans le camp des démocrates. Trump était vraiment tellement mal vu. Mais vous avez déjà répété, les États-Unis à la fin, le fair play est vraiment important. Il faut continuer la vie maintenant avec Trump. Il est élu pour 4 ans, c'est notre président. Et je crois, avec les mois qui suivent, cette animosité va se réduire, mais elle va toujours rester. Rappelons-nous que il avait beaucoup de mépris aussi vis-à-vis de Bush à la fin de sa présidence. Et on a fait des films contre Bush, etc. Ouais. Ça, c'est aussi partie de la démocratie normale des États-Unis.
Je ne vous ai pas posé la question personnelle. Est-ce que vous le connaissez, M. Trump? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, Thomas Breuer?
Je connaissais beaucoup mieux Madame Hillary Clinton, mais j'ai une fois rencontré Trump. C'était une rencontre très superficielle. Il a 3 ans. Il est très gentil, très warm, comme les Américains disent. Je crois avec lui, c'est un homme d'affaires et aussi un peu un acteur. Vous voyez. Et alors, je crois, on peut faire des affaires avec lui, je dirais.
Voilà. Il est un peu misogyne aussi, un peu macho, non? Vous avez pu mesurer
ça?
Oui,
naturellement, ça c'est partie de ça aussi, de son image. Et il se donne comme ça, c'est un type macho. Il aime les belles femmes, il aime l'argent. Mais vous voyez, aux États-Unis, naturellement, tout ça, c'est pas vu négatif par tout le monde. C'est une autre culture que la nôtre.
Ça, je confirme, absolument. Alors, on va voir, il est en train de mettre en place son équipe, Donald Trump, et des tensions apparaissent déjà, ça c'est dans un article de la presse suisse ce matin, Esther Coco et Valérie Drouot, vous êtes avec nous, des tensions apparaissent déjà, Valérie, au cœur de l'équipe de transition de Donald Trump.
C'est le ton qui s'en fait l'écho ce matin. Il y a d'abord eu 2 départs au sein de l'équipe, Mike Rogers et Chris Christie, gouverneur du New Jersey, qui lui a été écarté. Derrière ces départ, il y aurait le beau-fils de Donald Trump, le mari de sa fille Ivanka, Jared Kushner. Il semble exercer une influence grandissante au sein de cette équipe de transition. Les enfants de Donald Trump font aussi partie de cette cellule de transition. De quoi s'interroger, dit le temps, sur leur futur rôle politique, alors qu'ils étaient plutôt censés reprendre les affaires de leur père. Selon la chaîne de télé CBS, une demande aurait même été faite pour qu'ils aient accès, ces enfants, aux informations classées. Donald Trump semble en tout cas constituer son gouvernement comme un homme d'affaires, entouré de son clan et de ses fidèles. Mais pour l'instant, l'équipe s'active surtout à balayer les accusations d'improvisation et d'impréparation.
Oui, et les procès d'intention qu'on lui fait sur d'éventuels conflits d'intérêts qui impliqueraient les membres de sa famille. Thomas Borer, sur cette question, est-ce que vous pensez vraiment que M. Trump sera capable de couper tous les ponts avec sa Trump Organization? Parce qu'on n'a jamais connu ça, jamais encore un président n'était entré à la Maison-Blanche avec un tel empire, de tels milliards. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir couper les ponts avec ses affaires?
À mon avis, il doit vraiment le faire. Il doit mettre son argent, son empire, ses compagnies dans une fondation, et cette fondation doit être indépendante. S'il la vraiment passe à ses enfants, comme c'est prévu, il aurait des problèmes chaque jour, chaque semaine. Et les médias vont vraiment se concentrer là-dessus. Mais il faut aussi pas oublier que les problèmes de transition sont un peu exagérés, ou je voudrais dire chaque nouveau président a les mêmes problèmes. Vous voyez, la plus grande tâche d'un nouveau président est de construire son administration. C'est pas seulement quelques ministres, et naturellement il y a beaucoup de gens maintenant qui aimeraient devenir ministres. C'est quand même un ministre de défense, ministre des affaires étrangères, c'est énormément important. Alors là, c'est toujours une grande bataille. Et Trump doit aussi repourvoir environ 4000 postes. Et ce ne sont pas que les membres du cabinet qui sont à nommer, mais aussi beaucoup de leurs subordonnés. Et cela peut mener à quelques turbulences et gaffes dans les premiers mois. Un phénomène que j'ai pu voir à Washington, par exemple, lors des débuts de Bill Clinton, c'était la même chose. C'est peut-être quelque chose qui est choquant pour nous, mais pour les États-Unis, c'est tous les 4 ou 8 ans la même chose.
Oui. Au fond, il n'est pas plus impréparé que ses prédécesseurs. C'est ce que vous nous dites, Thomas Borer.
Je dirais, avec Hillary Clinton, naturellement, ce serait beaucoup plus facile parce qu'elle aurait continué un peu l'administration d'Obama. Mais chaque président, quand il a un changement de parti, il a toujours les mêmes problèmes.
Que dites-vous à ceux, et parmi eux, certains professeurs d'université éminents, qui prétendent que M. Trump n'ira pas au bout de son mandat? Qu'il pourrait être poursuivi d'ici là pour fraude et racket, qu'il pourrait y avoir une procédure d'impeachment telle qu'on l'a déjà connue avec M. Clinton, rattrapé par ses affaires. Est-ce que vous y croyez?
Je crois qu'ils espèrent ça, peut-être, mais Trump est quand même un homme intelligent, un homme d'affaires, et il n'est pas tellement bête. Il va faire gaffe. Et moi, je suis sûr qu'on va vivre 4 ans avec Trump, si on veut ou si on veut pas. Et moi, je trouve aussi pour la Suisse, on a rien à craindre. Au contraire, je crois que la Suisse va profiter des mesures économiques de Trump. La Suisse, faut pas oublier, était historiquement toujours mieux servie avec un président républicain qu'un démocrate.
Ah bon? Ah ben alors, je m'arrête sur ce point. Les administrations républicaines ont plus favorisé la Suisse que les administrations démocrate, Thomas Borer, c'est historiquement prouvé.
Exemple de Clinton et les fonds des Oranges dans les années 90, ou le secret bancaire sous Obama, c'était des deux démocrates quand on avait beaucoup de difficultés. Et le stimulus économique, si Trump vraiment va entreprendre ce stimulus économique, investir dans l'infrastructure, profiteraient les économies qui produisent des biens d'équipement, comme la Suisse, ou qui offre des processus de production innovants et technologiques, comme la Suisse. Et naturellement, des autres pays, comme l'Asie ou l'Amérique latine, là, il a un problème, parce que là, ils sont désavantagés, les biens de consommation, télévision, utiles simples, textiles, risquent d'être soumis à des barrières d'importation élevées aux États-Unis.
Mais pas la Suisse.
Mais la Suisse peut profiter.
Oui, mais la Suisse qui exporte beaucoup, on entendait un reportage dans le secteur de la machine-outil tout à l'heure, dans le canton du Jura, au fond, avec son protectionnisme, en tout cas son protectionnisme annoncé, les exportateurs suisses, notamment dans ce secteur-là, la machine-outil de cette industrie-là, n'ont pas de soucis à se faire, on comprend pas très bien, c'est assez paradoxal, non?
À mon avis, pas. Il n'a jamais mentionné la protection vis-à-vis de l'Europe, et de toute façon pas vis-à-vis de la Suisse. La Suisse représente le 6e plus grand montant d'investissement étranger direct aux États-Unis. Nous sommes responsables directement pour près d'un demi-million d'emplois, où on parle même de presque 2 millions d'emplois indirectement dans le pays. Alors, Trump, comme homme d'affaires, il ne va pas nuire la Suisse. Et vous voyez, les entreprises américaines qui investissent en Suisse le font pour se renforcer en rang et qualité à un coût élevé. La Suisse est beaucoup plus chère que les États-Unis. Ce n'est pas le Mexique ou la Chine. Et tant que la Suisse n'est pas perçue comme voleur de job, de travail aux États-Unis.
On sait que depuis, et notamment l'affaire des fonds des errances, une petite vingtaine d'années, même un peu plus, on sait que être banquier suisse ou haut cadre bancaire en Suisse n'est pas très bien vu aux États-Unis. Il y a peu de banquiers suisses qui se risquaient encore ces dernières années à aller voyager aux États-Unis, c'est un fait, hein. c'est la réalité. Maintenant, avec M. Trump, les banquiers suisses pourront de nouveau aller passer des vacances aux États-Unis, ils n'ont plus de soucis à se faire.
Voilà, je ne suis pas sûr, je devrais vérifier celle de plus proche, mais de toute façon, tous les autres Suisses, je suis sûr qu'il n'a pas de problème avec les visas où on peut facilement faire des vacances en Suisse.
Oui, pour les banquiers, c'était un peu difficile.
Oui, la Suisse n'est pas vue comme un pays à problème, mais je dirais pour les banquiers, il faut quand même se méfier.
Mais ça va changer avec M. Trump, ça, cette réputation des banquiers suisses ou pas?
Ça, c'est difficile à jouer, vous voyez. De toute façon, Trump va faire rien contre Delaware, contre ces États, où le blanchissement d'argent est plus facile, très facile si vous n'êtes pas américain. Mais en principe, les républicains sont toujours d'une façon un peu plus liberté, ou si le secret bancaire est quelque chose qui est plus proche que vis-à-vis de démocrates. Alors, je crois, pas tout de suite, mais après quelques années, une détention de ce problème est possible.
Alors on va aborder maintenant des questions géopolitiques. C'est le chaos à Washington, en tout cas selon le Bund ce matin et le Tagesanzeiger, Esther Coco, et Moscou va en profiter.
Donald Trump peine à former son gouvernement et son administration. Normal, ont relevé les médias américains, lui-même a été surpris par son élection. Et ses intentions en matière de politique étrangère restent floues. Dans les rangs républicains, on met en garde Donald Trump contre sa volonté de se rapprocher de Moscou. Les efforts de Barack Obama dans ce sens auraient conduit à l'invasion en Ukraine. Et déjà, la Russie profite de la paralysie ambiante à Washington. Vladimir Poutine s'appuie sur les déclarations de Donald Trump qui a dit qu'il voulait en finir avec le soutien des États-Unis aux rebelles syriens. Depuis mardi, les positions des rebelles sont bombardées par des avions de combat et des missiles de croisière. Et pour la première fois, des porte-avions russes ont été utilisés. Conclusion tirée par le Tagesanzeiger et le Bund ce matin, Vladimir Poutine profite du chaos à Washington pour conduire la politique étrangère tout seul.
Que va-t-il faire vis-à-vis de Moscou? On l'a dit, plutôt proche de M. Poutine, on n'en sait rien au fond. Est-ce qu'on doit craindre, par exemple, Thomas Borer, un désinvestissement des États-Unis au sein de l'OTAN, qui est une perspective qui évidemment effraie pas mal d'anciens pays de l'Est? Est-ce qu'il faut croire à cela?
Alors, premièrement, je trouve que l'apaisement des tensions avec la Russie que Trump veut est clairement atteindre et un développement positif. Et maintenant, pour la question de l'OTAN, je suis sûr que j'ai des conseillers très proches de Trump qui m'ont dit que Trump menera une politique moins interventionniste que ses prédécesseurs.
Les États-Unis seront plus le gendarme du monde, moins qu'avant.
Voilà, ils sont plus gendarmes du monde et surtout parce qu'ils ne peuvent plus le permettre de jouer les policiers du monde sous le plan financier. Ils n'ont plus l'argent pour le faire. Et pour moi, c'est un peu drôle parce que durant des années, les Européens, des autres se plaignaient des États-Unis qui jouaient le rôle de policiers du monde. Maintenant, les mêmes se plaignent de leur désengagement prévu. C'est pas très logique. Ouais. Mais je dirais avec l'OTAN, les conseillers vont expliquer comment l'OTAN est très important pour la sécurité au monde, pas seulement en Europe. Mais je suis assez sûr que Trump va demander des autres pays membres de l'OTAN européens, les pays européens, de contribuer plus dans l'OTAN. Financièrement, ça va coûter l'Europe. Et ça, c'est un peu le problème pour les pays en Europe, parce que vous connaissez la situation économique.
Ils devront passer à la caisse, évidemment. Un dernier article sur un pays que vous connaissez bien, l'Allemagne. Vous y fûtes ambassadeur. Angela Merkel, elle est la chancelière du monde libre.
Oui, c'est comme ça qu'elle est qualifiée dans le temps. Après l'élection de Donald Trump, elle fait figure de chef des démocraties libérales. C'est en tout cas l'Allemagne que Barack Obama a choisi pour sa tournée d'adieu à l'Europe. Angela Merkel a frappé les esprits dans son message de félicitations au président élu, rappelant les valeurs communes aux États-Unis et à l'Allemagne, la démocratie, la liberté, la dignité de chacun, indépendamment de ses origines, de la couleur de sa peau, de son sexe, de l'orientation sexuelle ou de ses choix politiques. Une responsabilité historique pour l'Allemagne que d'être en pointe pour contrer les tendances antidémocratiques, résumé un commentateur.
Chef du monde libre, est-ce ainsi juste d'appeler Madame Merkel, Thomas Borer, qu'en dites-vous ?
Oui, Madame Merkel est mieux perçue à l'étranger, tandis qu'elle a perdu beaucoup de soutien en Allemagne. Pour jouer un rôle de chancelier du monde libre, elle doit être réélue en automne de l'année prochaine, ce qui est absolument pas sûr.
Absolument. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en direct de Zurich, Thomas Borer.
C'est un plaisir.
Pour nous aussi, excellente journée.